Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui, toute cette semaine, ne vous mène nulle part si ce n'est dans l'espace. En long, en large et en travers, de haut en bas et inversement, en surface et en profondeur, et aujourd'hui aux côtés de l'écrivain bâtisseur Georges Perec.
Ah ben j'y vais alors. Hein.
Mabillon, 19 mai 1978, il est 10h moins 20. Le temps est pluvieux. La circulation est plutôt fluide. La plupart des gens ont leur parapluie ouvert. Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four, la portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés, et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Au feu rouge de la rue du Four, une mobylette s'arrête, avec un homme qui porte une combinaison orange. Dans l'autre sens, une camionnette diffusion princesse. Sur le boulevard Saint-Germain, passe un autobus 63 et un autobus 96 qui porte une publicité pour Véronique Sanson. Passe un transport routier, un grand camion bleu marqué GEFCO.
Bonjour Claude Burgelin.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, spécialiste de Georges Perec. Vous avez contribué aux éditions en Pléiade chez Gallimard des œuvres de Georges Perec ainsi qu'au cahier de Lerne qui lui est dédié. En décrivant les choses qu'il voit sur une place, ici c'est le carrefour de Mabillon le 19 mai 1978. C'est pour un atelier de création radiophonique sur France Culture. Georges Perec fait-il l'aveu que l'espace, finalement, pour le saisir, pour le penser, on ne peut que le décrire?
Oui. Il faut nommer les espaces. Et c'est l'originalité même de Perec. Ce n'est pas évident de nommer les espaces. D'une certaine façon, ils sont là, les espaces. Mais arriver à les nommer, à les lister, à les cartographier, à les interroger, c'est toute une démarche où excelle Perec.
Mais entre décrire et écrire, il y a une différence.
Oui et non, parce que écrire, c'est simplement écrire. Et donc, d'ailleurs, Perec décrit peu, il nomme plus qu'il ne décrit. Il ne fait pas un travail d'écriture. Ce qui lui importe, c'est la marque et la trace. Et l'écriture comme marque et comme trace. Et donc, dire qu'il y a un monsieur qui passe, un autobus qui passe, etc., cela suffit. On ne ment pas.
Et pourquoi cette attention à l'espace, alors?
Perec est un homme pour qui toutes les relations au temps et relations fondamentales ont été cassées et brisées. Sa mère n'a pas de tombe, a disparu. Donc, ce sur quoi il peut prendre appui, ce sont les espaces, les lieux. Les espaces peuvent être détruits. Malgré tout, ils ont une durée de vie infiniment plus grande que celle des humains. Et il est frappant de voir que Perec est devenu un hypermnésique des espaces. Par exemple, dans les ouvrages qu'il projetait, il y en avait un qui se serait appelé « Lieu où j'ai dormi ». Et il avait gardé effectivement une mémoire inouïe des chambres où il avait pu dormir au cours de sa vie, de la disposition du lit, de la table, de la fenêtre, etc. Et ces lieux lui servent d'appui. Il est frappant de voir que dans « W ou le souvenir d'enfance », il a cette phrase limpide « pour être, besoin d'était ». Eh bien, les étais, ce sont les espaces, les meubles qui le lui fournissent.
Cette attention à l'espace, elle prend la forme d'une attention aux choses, aux personnes qui s'y trouvent, à la forme des espaces. Ça peut être une chambre, ça peut être un lit, ça peut être des passants, ça peut être une place. Comment il arrive précisément à nommer toutes ces choses, mais aussi à les classer, de manière à faire un inventaire de ces espaces, de manière même à ce que son œuvre soit un inventaire de ces espaces?
Oui, mais c'est un inventaire qui ne tient pas debout. Et c'est ça qui fait absolument le charme de Perec.
Comment ça? C'est-à-dire que ça s'effondre, vous pensez, comme
projet? Non, ça ne s'effondre pas. Ça, c'est un doux balancement, vertige, mobilité... Prenez un livre comme Espèce d'espace, qui est son grand livre sur l'espace. D'abord, rien que le titre dit bien qu'on a un rapport un peu de guingouin avec ces espaces qu'on ne sait pas bien comment nommer. Sinon, par cette petite musique sonore, Espèce d'espace.
Qui est un des seuls essais de Georges Perec.
Pourquoi l'appeler essai? C'est innommable, l'espèce d'espace, et c'est ça que je trouve délicieux dans l'espèce d'espace, puisqu'il y a de l'inventaire, de la comptine, de la réflexion,
de l'autobiographie,
du pseudo-poème, des pages empruntées à tel ou tel. C'est impossible à nommer ce que c'est que espèce d'espace. Il y a une mobilité d'approche qui est exquise et qui nous oblige, nous-mêmes, nous lecteurs, à avoir cette mobilité d'écoute, d'attention. Les lieux sont inclassables. Alors, effectivement, on peut essayer tout le temps de les classer, mais on sait que les classements ne tiendront pas vraiment. Et c'est ça qui est excitant chez Pérec. Il y a un doute, toujours. Et Espèce d'espace, c'est un livre délicieux parce que c'est un livre heureux. C'est de beaucoup le plus heureux, le plus réconcilié, le plus charmant des livres de Pérec. C'est un livre sur le bonheur. D'ailleurs, il est frappant de voir qu'à plusieurs reprises intervient la formule « j'aime ». Et des livres heureux comme cela, la modernité ne nous en a pas tellement fourni. Et c'est d'autant plus remarquable que ça vient aussi de l'auteur de W ou le souvenir d'enfance, qui nous dit « je n'ai pas de souvenir d'enfance », que l'histoire, avec sa grande hache, a cassé les liens fondamentaux, et donc que l'espace de la reconstruction, la recréation d'une sorte de jardin de mots, de lieux, c'est dans l'espèce d'espace qu'il nous la propose.
On a fait hier une émission sur les espaces heureux chez Gaston Bachelard. Vous venez de dire que chez Georges Pérec, l'espace était lui aussi le lieu du bonheur.
L'espace est le lieu, en tout cas de la réassurance. Il n'y a pas le rapport qu'il y a chez Bachelard, c'est vraiment le rapport intime avec le lieu qui est fouillé, creusé, le lieu autour de la flamme d'une chandelle ou de la flamme dans le foyer. Là. Chez Pérec, c'est beaucoup plus dansant, fragile. Il y a une phrase clé de Pérec, c'est « je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère ». Bachelard essaye de chercher ce non pas l'éternel, alors parce qu'il y a de durable autour des imaginaires de l'espace, une approche un peu jungienne. Tandis que chez Pérec, c'est beaucoup plus le goût de l'éphémère.
Espace. Espace libre, espace clos. Espace fort clos. Manque d'espace. Espace compté. Espace vert, espace vital. Espace critique, position dans l'espace. Espace découvert, découverte de l'espace. Espace oblique, espace vierge. Espace euclidien, espace aérien. Espace gris, espace tordu. Espace du rêve, barre d'espace. Promenade dans l'espace, géométrie dans l'espace. Regard balayant l'espace, espace-temps. Espace mesuré, la conquête de l'espace. Espace mort, espace d'un instant, espace céleste, espace imaginaire, espace nuisible, espace blanc, espace du dedans, le piéton de l'espace, espace brisé, espace ordonné, espace vécu, espace mou, espace disponible, espace parcouru, espace blanc, espace type. L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre, sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer, trop de gens bien intentionnés sont là aujourd'hui pour penser notre environnement, mais de l'interroger, ou plus simplement encore de le lire. Car ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité, une forme de cécité, une manière d'anesthésie. C'est à partir de ces constatations élémentaires que s'est développé ce livre, Journal d'un usager de l'espace.
Claude Burgelin, on vient d'entendre le texte de présentation d'Espèces d'espace de l'édition originale de ce texte. Puis on a entendu juste avant la liste des expressions avec le mot espace que fait Georges Perec au début d'Espèces d'espace. On y entend cet inventaire, cette importance accordée au fait de nommer l'espace. Et effectivement, non pas de l'inventer, mais de le nommer.
Ce qui est passionnant chez Perec, c'est qu'il en revient toujours aux instants premiers. On parle d'espace, et ben on va faire l'inventaire des formules les plus simples qui soient, où le mot « espace » intervient. Perec en revient toujours au commencement des choses. C'est un fidèle disciple de Descartes, dont la pensée l'a impressionné. Et c'est un disciple de Rousseau, à sa façon, revenir de l'esprit des Lumières, revenir à l'origine des phénomènes et du langage. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme d'Espèces d'espace, puisqu'au fond, il se pose les questions que se pose un enfant. Un enfant se demande ce que c'est qu'une rue, pourquoi une rue est différente d'une autre, pourquoi elle a tel nom, comment sont numérotés les immeubles. Est-ce qu'une maison sans porte peut exister? C'est les questions que nous avons posées à nos parents quand nous avions 4, 5, 6 ans, et ils les reposent. Et on voit bien que pour renouveler la pensée, sociologique, il faut en revenir à cet esprit de commencement et à ces questions élémentaires. Et dans les attitudes premières de l'enfance, de nos premières expériences, nous les avons faites grâce au jeu. Et Perec ne cesse de jouer avec les mots, faire une petite litanie autour du mot « espace » et voir ce que ça donne, et laisser ça flotter, ne jamais arrêter la signification, mais toujours nous laisser poursuivre par l'interrogation intellectuelle ou par la rêverie, la flânerie ou tout ce que l'on voudra de ce genre.
Finalement, il a une attitude de philosophe, c'est-à-dire que ce qui semble acquis est sans cesse interrogé par Georges Perec.
Oui, un philosophe qui se défierait absolument de l'esprit de système. Il a été un petit peu tenté dans son jeune temps par les approches marxistes ou sociologiques. Il a un peu fréquenté le sociologue Henri Lefebvre qui justement s'interrogeait sur la notion de quotidienneté. Mais Perec s'est défié très vite des constructions idéologiques ou... Parce que pour lui, elle grillage. Pardon ?
Ou totalisante.
Elle grillage et il a besoin, lui, d'aller braconner. Il est très attentif, justement, à ce que les délimitations écartent. Si on le rapproche d'un philosophe, d'ailleurs de l'époque, ce serait de Michel Foucault qu'il faudrait le rapprocher, qui s'interroge sur le pouvoir des frontières et des limites. Et toute frontière et toute limite crée du déchet, de l'écart, de ce dont on ne veut pas, du rejeté. Et c'est ça qui l'intéresse. Un des projets qu'il avait, qu'il n'a pu réaliser parce qu'il est mort trop tôt, c'était ce qu'il a appelé l'herbier des villes. C'est-à-dire aller ramasser des tracts, des bouts de papier, des bouts de carton, etc., et part dans la ville, et voir tout ce que ça raconte de la ville. Et en cela, il rejoint les démarches des historiens les plus passionnants de ce temps, par exemple quelqu'un comme Arlette Farge, qui a interrogé les archives de la police du XVIIIe siècle, ce qui était mis à l'écart, ce que les historiens n'allaient pas voir, pour reconstruire l'histoire autrement.
On serait pourtant tenté de croire, Claude Burgelin, que Georges Perec a voulu, avec des contraintes, avec une méthode, avec un souci d'exhaustivité, approcher, saisir totalement l'espace.
Il a toujours eu ce fantasme. Un de ses textes s'appelle « Tentative d'épuisement de lieu parisien.
Qui ressemble d'ailleurs à l'archive qu'on a entendu tout à l'heure. Effectivement, dans ce texte, il tente de d'épuiser un lieu en décrivant tout ce qui s'y passe, comme on l'a entendu au carrefour de Mabillon. Ce qui est assez drôle dans ce texte, c'est qu'il dit « Je vous décris tout ce qui se passe, mais ce qui se passe sur la droite de mon champ visuel m'échappe. » Et sans cesse, il reconnaît qu'il est en total échec.
Oui, Pérec a adoré faire des expériences. Et c'est une expérience textuelle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très réussie, parce qu'effectivement, je trouve qu'il n'arrive pas bien à saisir l'esprit du lieu. La place Saint-Sulpice, elle est vraiment très particulière. Le génie du lieu, pour reprendre le titre de Buteau, et le génie du lieu lui échappe parce que je crois que la méthode là n'était pas tout à fait adéquate. D'une certaine façon, qu'il s'auto-censure, qu'il ne laisse pas parler son imaginaire et qu'il en reste à une énumération un peu plate. Alors, ça a beaucoup de charme aussi, de cette façon de noter de façon toute légère la fuite du temps et des êtres. Mais ce qui est frappant, c'est justement que le filet qu'il jette sur la place Saint-Sulpice ne ramasse pas grand-chose au bout du compte.
Mais c'est une bonne question à poser à un écrivain. Comment saisir l'esprit d'un lieu, le génie d'un lieu? Est-ce que Pérec avait envie de saisir cet esprit d'un lieu ou juste de saisir la nature d'un espace en général?
Je voudrais peut-être vous le dire, un passage... Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arpents. Et il dit plus loin, donc pas impossible d'épuiser le monde. Mais ce qu'on découvrira peut-être, c'est, ce seront peut-être trois enfants courant sur une route toute blanche, ou bien une petite maison à la sortie d'Avignon, avec une porte de bois à claire-voie jadis peinte en vert, les découpes en silhouette des arbres au sommet d'une colline des environs de Sarrebruck, quatre obèses hilares à la terrasse d'un café dans les faubourgs de Naples, la grande route Brionne dans l'heure, deux jours avant Noël, vers 6h du soir, etc., etc. C'est-à-dire des épiphanies. Et ça, j'adore ces moments où Pérec est au sommet de l'expression prosaïque et si proche de l'expression poétique, où quelque chose s'ouvre. Et c'est ces moments que je préfère infiniment à tentative d'épuisement dans le lieu parisien, parce que là, ça ouvre, alors que tentative d'épuisement peut-être referme trop vite les choses. Les tentatives d'épuisement, il a réussi ça merveilleusement quand, par exemple, il fait la tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgités pendant l'année 1974.
Mais parce
où là,
que finalement,
la liste prend sens.
Parce que ça le concerne lui, peut-être.
Ça concerne lui, et puis il peut épuiser. Parce qu'effectivement, il a noté consciencieusement toute l'année ce qu'il mangeait chaque soir au restaurant. Et donc, faire la liste s'imposait. Tandis que dans un espace ouvert, on ne peut rien épuiser.
Dans le texte qu'on a entendu, lu par Vincent Schmitt, le texte de présentation d'Espèces d'espace, Georges Pérec parle de quotidienneté. Et ce qui se passe peut-être dans tentative d'épuisement d'un espace, c'est que la quotidienneté, parfois, ne dit rien. Rien n'en échappe et l'écrivain a beau être attentif ou a beau avoir une méthode ou un style, une écriture, il n'en sort rien. Quand la matière narrative, littéraire n'est pas là, il n'en sort rien.
Eh bien, c'est justement là le défi. La quotidienneté, dit-il fort bien, elle est opacité. Et donc, il faut trouver les moyens de l'apprivoiser, de l'interroger, de lui poser les bonnes questions. Alors parfois, il suffit de nommer les choses, puisque nous avons perdu l'habitude de les nommer, de se poser des questions sur les limites et démarcations. Là, la démarche, je reprendrai encore, c'est très proche de la démarche de Foucault. Comment des espaces se constituent et se créent? Et interroger effectivement la notion de cassure et de rupture, puisqu'il est frappant de voir que notre vie consiste à passer dans des espaces vraiment extrêmement différents, y compris dans notre propre appartement, où l'espace où nous mangeons ou préparons le repas est différent de l'espace où nous nous lavons, de celui de l'espace où nous dormons. Et effectivement, ces démarcations sont à interroger tout le temps, à reprendre. Et qu'est-ce que serait la vie si on bousculait les cloisons?
Si on mangeait dans sa baignoire.
Si on mangeait dans sa baignoire, si on répartit sur des pièces, si on avait une pièce pour le lundoir, une pièce pour le mardoir, une pièce pour le mercredi,
c'est ce qu'il propose dans Espèces d'espace.
Oui.
interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé, cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons certes, nous respirons certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre. Comparez, faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint ? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone ? Pourquoi ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries ? Pourquoi pas ? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité.
Là, je vais vous présenter un autre travail que je fais depuis des années. Pour l'instant, ça s'appelle « Les lieux ». C'est un travail qui est dans le temps. J'ai choisi des lieux à Paris et je décris ces lieux. J'ai choisi 12 lieux. Et chaque mois, je décris un lieu. Je vais à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait la description, je le mets dans une enveloppe. Alors, voilà, j'en suis là pour l'instant. Et je scelle l'enveloppe.
C'est l'enveloppe. Oui.
Alors ça, c'est un projet que j'ai eu donc à la...
Mais pourquoi sont-elles scellées, ces enveloppes ?
Pour que je ne sois pas influencé.
Par la dernière.
Parce que ce que j'attends de ces lieux, c'est trois choses. C'est premièrement, les lieux vont changer.
Oui.
Deuxièmement, moi, je vais changer. Oui. Et troisièmement, mon écriture va changer. Mm-hmm. Donc, il y aura trois vieillissements.
Claude Burgelin, on vient d'entendre la voix de Georges Perec, c'est dans une archive sur son projet des lieux, c'était en 1976, et puis j'ai lu juste avant un extrait de L'Infraordinaire qui est paru de manière posthume en 1989. On entend dans ces deux moments, dans ce texte et dans cette archive, la méthode que Georges Perec a mis en place, une méthode comparative, on pourrait dire, pour tenter d'approcher l'espace, à savoir tout interroger, questionner la fonction d'un objet, des pièces, ce qu'il y a sous le papier peint, et puis aussi une méthode comparative dans le temps. Est-ce que les lieux changent ? Est-ce que je change ? Est-ce que mon écriture change ? Est-ce qu'on peut parler de méthodes comparatives mises au point par Georges Perec pour habiter les lieux ?
En tout cas, c'est une méthode de questionnement. Questionner vos petites cuillères, ça amène immédiatement à se poser des questions sur les usages de table, donc sur l'imaginaire social et de raffinement plus ou moins justifié lié à la distinction entre cuillère à café, cuillère à dessert, cuillère à soupe. Et donc, par là même, à retrouver la conflictualité sociale, mais de façon tout à fait inattendue, détournée, souriante, et inattendu, et créer justement des effets de surprise. Alors, le projet de lieu, d'abord, dont j'ai le plaisir de vous annoncer que probablement pendant l'année 2019 ou au plus tard en 2020, il sera publié.
C'est une publication. On est ravis.
C'est une publication un peu compliquée parce que faut savoir dans quel ordre on met les textes, retranscrire ce qui était resté graphie plus ou moins lisible ou illisible de Perec. Alors, il y a donc l'inventaire des 12 lieux qui est fait suivant le rigorisme perecien, c'est-à-dire un inventaire scrupuleux, exact, précis. Alors, ce qui est très frappant, c'est la disjonction qu'il a voulu. D'un côté, les faits, de l'autre, la mémoire. Alors, la mémoire, on va avoir une fenêtre ouverte tout à fait inattendue sur l'univers pérequien, parce que dans ses souvenirs attachés à ces 12 lieux, il écrit en roue libre. Il oublie totalement l'Oulipo, les contraintes, etc. Il se laisse écrire, vraiment au fil de la plume. Et en particulier, il y a beaucoup de choses sur la période de ses 18-25 ans sur laquelle il a très peu parlé des moments de marasme qu'il a pu connaître quand il était jeune homme, de quelques souleries importantes, etc. Et donc là, ce sera très, très stimulant. Ce sera très stimulant et je pense que l'idée du triple vieillissement, en réalité, ça n'a pas marché. C'est peut-être pour ça que le projet s'est arrêté. Parce que les lieux n'ont pas tellement vieilli. Parfois, oui, la rue Villain, c'est saisissant, elle a été détruite pendant ces 12 années.
La rue Villain, c'est la rue
de la naissance, là où il a vécu ses 4 premières années avec sa mère, dans les Hauts-de-Belleville. Mais en revanche, la rue de la Gaîté, elle change peu. Et donc, il y a quelque chose d'un peu fastidieux à reprendre à chaque fois des descriptions de lieux qui ne peuvent pas changer. Les souvenirs, ils ne sont pas inépuisables non plus. Quand, dans la vie mode d'emploi, il dit que le projet de Barthelbus périt victime de ses contradictions, je pense qu'il a le projet de lieu en tête, puisqu'il est frappant, donc qu'il ne l'a pas mené à bien et qu'il est parti vers autre chose. Mais telles que les ruines de ce projet sont fascinantes.
Oui, en fait, c'est les ruines. Vous parliez de traces tout à l'heure d'écriture, mais toute la méthode que met en place Georges Perec, finalement, c'est aussi une méthode qui vise presque paradoxalement à s'effondrer, puisqu'il n'a pas de visée totalisante ou il ne se voit pas comme un architecte qui veut bâtir une œuvre de A à Z.
Alors, deux choses différentes là-dessus. Il sait que les lieux sont fragiles. C'est bien pour ça qu'il faut noter ce qui se passe. L'immeuble de la vie mode d'emploi, il a le regret de nous annoncer que un jour il sera détruit. Et tout en pierre de taille qu'il soit, il ne sera plus là. En revanche, la construction, c'est pas un hasard si la première page d'Espace d'espace est consacrée à la page où va être consignée toute cette réflexion sur l'espace. Là, les constructions tiennent. Alors, il est frappant de voir combien il a eu un imaginaire d'architecte ou d'installateur au sens des installations que font les concepteurs graphiques d'aujourd'hui. W est une construction spatiale absolument étonnante, avec les deux récits, l'un en romain, l'autre en italique, c'est-à-dire les souvenirs d'enfance et la reprise dans l'imaginaire de cette enfance, architecturée autour d'une page avec simplement 3 points de suspension, entre parenthèses. Il y a là une construction absolument étonnante, et ce qui fait l'originalité de cette démarche autobiographique, c'est justement l'imaginaire de la construction. C'est l'imaginaire de la construction qui fait tenir la vie mode d'emploi. C'est parce que la vie mode d'emploi est un roman de l'emplacement que le livre peut permettre toutes sortes de déplacements dans l'espace. Parce que cette structure-là tient, ça peut partir dans toutes les directions. Mais il est frappant de voir que dans la vie mode d'emploi, il a laissé ouverte et absente la case en bas à gauche de l'immeuble, signifiant par là que tout peut s'effondrer. Et ce qu'il y a de passionnant avec Perec, c'est ce sentiment qu'il est un constructeur, mais que jamais il ne verrouille la construction.
On a entendu dans le texte que j'ai lu, l'extrait de l'Infraordinaire, ce qu'on disait tout à l'heure, ce paradoxe d'une quotidienneté qui serait opaque, non pas donnée, mais opaque et presque inaccessible. Le souci d'interroger cette quotidienneté en vient presque à dire que Perec serait non pas un architecte, mais même plutôt une sorte on va dire d'explorateur ou qui partirait à la conquête de l'espace.
Oui, en tout cas, il a des mots peut-être plus modestes, mais usager de l'espace, oui. Effectivement, la démarche chez Perec, et là, elle me comble, c'est qu'elle est toujours empirique. On va, on parcourt, on regarde, on lève le nez. Regarde, tous tes yeux, regarde. Et Perec nous fait comprendre qu'on a un petit peu plus que deux yeux. qu'on peut regarder de différentes façons, changer nos angles de vue. Et c'est toujours des démarches, oui, de, j'allais dire de paysans. Si le titre « Le paysan de Paris » n'avait pas été pris, on le mettrait volontiers sur l'œuvre de Pérec. D'ailleurs, il se compare à un paysan.
C'est ce qu'il dit dans « Pensée classée, note sur ce que je cherche ». C'est un texte qui date de 1978. Il dit « Pour ma part, je me comparerais plutôt à un paysan qui cultiverait plusieurs champs. Dans l'un, il ferait des betteraves, dans un autre, de la luzerne, dans un troisième, du maïs, etc. De la même manière, les livres que j'écris se rattachent à quatre champs différents, quatre modes d'interrogation qui posent peut-être, en fin de compte, la même question, mais la posent selon des perspectives particulières, correspondant chaque fois pour moi à un autre type de travail littéraire. » Alors, ces quatre manières, il le dit, la première, c'est une démarche de sociologue, comment regarder le quotidien. Ensuite, c'est une démarche d'ordre autobiographique. Une troisième démarche ludique qui renvoie à son goût pour les contraintes, les prouesses, les gammes. Et enfin, une démarche qui concerne le romanesque, le goût des histoires et des péripéties, l'envie d'écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit.
Il est frappant de voir donc qu'il se décrit comme un paysan. Et en même temps qu'il ne va être assigné à aucun lieu et à aucune formule. D'ailleurs, il ne voulait jamais écrire deux fois le même texte. Et qu'il a besoin de cette mobilité. Il y a une phrase de lui très jolie dans W, c'est « Je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait ce qu'il craint ou désire le plus, rester caché, être découvert. » Et Pérec nous propose toujours ce contrat de lecture. Rester caché, trouvez-moi à travers cette diversité, trouvez-moi, ne me trouvez pas. Et il y a là quelque chose d'extraordinairement stimulant de ce redépart continuel qu'il se propose de créer des espaces verbaux, littéraires différents.
L'œil, d'abord, glisserait sur la moquette grise d'un long corridor haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair dont les ferrures de cuivre luiraient. Trois gravures, représentant l'une Thunderbird vainqueur à Epsom, l'autre un navire à aube, le Ville de Montereau, la troisième une locomotive de Stephenson, mèneraient à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veiné et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette, alors, laisserait place à un parquet presque jaune que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Ce serait une salle de séjour, longue de 7 mètres environ, large de 3. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir fatigué serait flanqué de 2 bibliothèques en merisier pâle où des livres s'entasseraient pêle-mêle. Tout serait brun, ocre, fauve, jaune. Un univers de couleurs un peu passées, au ton soigneusement presque précieusement dosé, au milieu desquels surprendraient quelques taches plus claires. L'orange presque criard d'un coussin, quelques volumes bariolés perdus dans les reliures. En plein jour, la lumière, entrant à flots, rendrait cette pièce un peu triste, malgré les roses. Ce serait une pièce du soir. Alors, l'hiver, rideau tiré, avec quelques points de lumière, le coin des bibliothèques, la discothèque, le secrétaire, la table basse entre les deux canapés, les vagues reflets dans le miroir, et les grandes zones d'ombre où brilleraient toutes les choses, le bois poli, la soie lourde et riche, le cristal taillé, le cuir assoupli, elle serait havre de paix, terre de bonheur.
Claude Burgelin, c'est le tout début des choses qu'on vient d'entendre lu par Vincent Schmitt. Vous venez de dire, Claude Burgelin, que Georges Perec jouait parfois à se cacher, à être là, et puis à se cacher. On a l'impression qu'il s'agit de la même chose avec ce début des choses, où il n'est pas question d'individu, il n'est pas question de personne, il est question d'abord de décor, d'objets et de couleurs.
Oui, d'un lieu bienheureux, dont on s'apercevra, le passage est au conditionnel. Et le conditionnel va se révéler un irréel douloureux. Ça permet de faire l'éloge de bonheur possible. Il n'y a pas un refus du monde chez Pérec. Il y a des beaux matériaux, il y a de la beauté, il peut y avoir des choses exquises. Le problème, c'est de croire qu'on peut se les approprier. Il est frappant de voir que son premier livre publié, la première page, est sur un lieu clos, bien heureux. Le second essentiel, en tout cas, c'est Un homme qui dort, où là, c'est la chambrette de l'étudiant et un lieu clos invivable.
Les choses, c'est 1965
et Un homme qui dort, c'est 1967. Auparavant, un livre qui a été publié il y a quelques années, qui était un inédit, Le Comte de Thiers, on voyait aussi le personnage essayer de sortir d'un lieu clos en se creusant un tunnel. Enfin, il y a une obsession d'un lieu, peut-être un lieu natal, en tout cas d'un lieu d'enfermement dont il faut arriver à sortir. Alors, de façon très frappante, c'est l'expérience qu'il va faire dans l'analyse, puisqu'il va être dans le bureau ô combien fermé et clos de l'analyste, et c'est en vivant totalement ce que signifie être enfermé dans ce lieu, avec la tente plafonneuse et le temps immobilisé, que peut-être quelque chose de lui a pu se dire et qu'il a pu se libérer de cet imaginaire de la chambre. L'imaginaire de la chambre, il est très fort chez lui, puisqu'il sait que sa mère est morte dans ce qu'on a appelé par une horreur verbale, chambre à gaz, Gaskammer. Comme si le lieu de mort, on a donné l'appellation de chambre. Et de cela, il lui faut effectivement sortir sans néanmoins l'oublier. Et donc le lieu clos, c'est quelque chose de très important pour lui. Il y revient, il s'en éloigne, il y revient, il s'en éloigne.
Et il s'en libère en y restant.
Oui, il s'en libère en nommant, et justement, Espèce d'espace, qui est un livre écrit d'ailleurs pendant son analyse avec J.B. Pontalis. C'est continuellement le livre de l'ouverture.
Oui, d'ailleurs, il commence par la page et il va jusqu'au pays, jusqu'à l'Europe, le pays, le monde.
Les espaces infinis. On passe par l'inhabitable. Hein. Il y a deux pages saisissantes à la fin sur ce que c'est que l'inhabitable. Dans la campagne, chapitre qui concerne la campagne, qui est assez bref, parce que la nature l'inspire peu, mais enfin, il rappelle que la campagne, ça peut mener, les chemins de campagne peuvent mener au camp. Et d'ailleurs, ce qui était très frappant dans le film de Lanzmann, c'était de voir les trains menant à Auschwitz passer à travers des petits bois, des forêts parfaitement aimables.
Il y a ce lieu, vous venez de parler, Claude Burgelin, de lieu clos, de lieu qui enferme, qui se resserre sur l'individu, mais il y a aussi tous ces espaces qui sont vides, qui sont trop ouverts, sans frontières, sans souvenirs, qui ne changent pas. Il y a tout un vide de l'espace chez Pérec. Et dans le début des choses qu'on entend, on entend que cette profusion d'objets, finalement, ne fait que révéler un peu plus ce vide de l'espace.
Tout à fait. La profusion révèle le vide. Ce qui est très frappant, c'est que les choses, c'est l'histoire de jeunes couples.
Sylvie et Jérôme.
Qui se cherchent des espaces, un espace où vivre, et qui n'arrivent pas à le trouver. Et qui cherchent même à comment se vêtir, comment manger. Rien ne leur a été transmis. Et qui cherchent éperdument à trouver quelque chose qui soit conforme à leurs aspirations, mais qui sont renvoyés effectivement au vide ou au déceptif, puisqu'à la fin, effectivement, bon, ils vont accepter le boulot qu'on leur propose, mais la nourriture qu'on leur sert au wagon-restaurant, elle est dite franchement insipide. Alors, par ailleurs, Pérec a été très tourmenté par ce qu'il appelle le lieu de l'absence de lieu. C'est une page très belle du récit d'Ellis Island à la fin, il dit mais qu'est-ce que je suis venu chercher à Ellis Island, dans ce lieu de dispatching où arrivaient les exilés. Il dit pour moi c'est le lieu même de l'exil. Et au fond, pourquoi est-ce que c'est le lieu même de l'exil? Parce que c'est le lieu où est signifié que rien ne fait vraiment attache. Et au fond, il est amené à dire que sa condition de juif, pour lui, c'est d'être effectivement à nouveau le juif errant, mais non pas le juif errant hors de la société chrétienne, mais le juif errant hors de sa judéité, puisque rien de ce qui faisait l'univers des siens, leur tradition, leur culture, etc., ne lui a été transmis. Et donc, c'est effectivement une condition d'errant qu'il désigne comme fondatrice de son être au monde.
Je vous propose, Claude Burgelin, d'entendre la voix de Georges Perec qui retourne sur les lieux de son enfance, qui sont devenus aussi des sortes de non-lieux.
La rue, maintenant, n'est plus qu'un souvenir de rue. Oui. C'est une rue qui est en train de mourir depuis des années. Enfin, c'est des terrains vagues. La maison où ma mère avait son petit magasin de coiffure est encore restée debout.
C'est cette maison.
C'est cette maison-là. Ça fait plusieurs
c'est
années que je vais dans cette rue pour essayer de la décrire, essayer de retrouver les souvenirs qui m'y rattachent. Et c'est une rue où j'ai vécu avant la guerre,
oui.
Jusqu'en 1942, que je n'avais pas revue ensuite pendant des années et des années. Ça a été le point de départ de ma tentative autobiographique qui était informe au début. Je veux dire, quand je dis que mon projet d'écrire, c'était d'abord le projet d'écrire mon histoire, oui. Mais j'ai mis très longtemps avant de l'assumer. Enfin, je veux dire, avant d'assumer mon histoire comme telle, pouvant, disons, la possibilité de dire « je » dans un livre.
Oui.
Et d'arriver à cerner quelque chose qui soit ma propre histoire, mon propre espace, mon propre lieu.
Oui.
J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance. Le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Mes souvenirs me trahiront. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies au bord tout cassé. Il n'y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du petit café de la rue Coquillière. Ici, on consulte le bottin et casse-croûte à toute heure. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et il ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose. Arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
Claude Burgelin, ce texte est bouleversant. C'est la fin de Espèce d'espace. C'est l'espace suite et fin. C'est lu par le comédien Vincent Schmitt. On y entend en fait ce que vous avez dit durant cet échange, que l'important pour Perec, c'est de construire l'espace à travers la littérature, l'espace de la page, de reconstruire quelque chose qui n'existe pas et de le construire, de le créer avec l'écriture.
Et même peut-être plus simplement déjà retrouver les gestes les plus anciens de l'humanité. Je pense à ceux qui ont posé sur la grotte de Lascaux ou autre leurs mains sur les parois. Ils ont laissé une trace, quelques signes. Et quelques milliers d'années après, nous les interrogeons. Qu'il y a là quelque chose de ce pouvoir de fabriquer de la trace, c'est ce qui définit l'humanité même. Et effectivement, il y a là une qualité d'émotion très grande. La rue Villain, que nous avons entendu juste avant.
C'était une archive de 1976.
Cette rue Villain, elle a été totalement détruite. Et le texte qu'il a écrit sur la rue Villain là, pour lieu est saisissant, puisque d'année en année, on voit la destruction progresser. Et il y a quelque chose qu'il a respecté. Il n'est jamais entré dans la courette du taudis, car c'était un taudis, où vivait sa mère. L'enfance de Pérec, effectivement, c'est le passage, au fond, dans trois espaces. Ce premier, englouti avec la mère, disparu de sa mémoire. Le second, c'est Villard de Lans, la reconstruction. Et W, le titre, s'est fondé sur W. V comme vilain, V comme Villard, c'est comme ça que Pérec s'est reconstruit. Et Villard de Lans, c'est le temps des apprentissages premiers, qui est un temps de si désespéré que soit l'enfant Pérec, c'est un temps épique. Il conquiert. Et puis, il va se trouver, après cela, il en a très peu parlé, dans un appartement du 16e arrondissement. Avec ce que ça a d'incompréhensible, de bouleversant. Parce que sa mère est morte, le voilà devenu traité comme un gosse de riche. Allant au lycée, il y a quelque chose qui va lui faire vivre le sentiment du faux, de façon très intimement éprouvée. Et la question du faux va être continuellement à l'œuvre dans son esprit. C'est pas un hasard si le premier des livres qu'il a écrit concerne l'histoire d'un faussaire, si le quasiment dernier, Le cabinet amateur, c'est une histoire de faux dans la représentation. On comprend que son regard sur les espaces vienne tout le temps demander « Mais c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qu'il y a là-dessous » Interrogeons.
Et c'est pour ça qu'il tente, comme vous le disiez au tout début de l'émission, Claude Burgelin, finalement, de seulement nommer. Car c'est peut-être ça le plus difficile, de toucher la vérité de l'objet, de la chose, de l'espace ou de nous-mêmes.
Tout à fait. Il faut nommer, lister, classer. C'est passionnant parce qu'il en revient à des opérations intellectuelles qui sont effectivement celles, au fond, que nous avons apprises à l'école primaire. Nos tout premiers apprentissages, c'est à partir de là qu'on peut essayer de reconstruire quelque chose et de reposer ces questions en réalité parfaitement subversives que sont les questions de la première enfance.
On a entendu Georges Pérec dans l'archive comme confesser, reconnaître que ce lieu, cette rue Villain qui a disparu, était l'origine de son écriture, que la disparition de cette rue était l'origine de son écriture. C'est ce non-lieu dont on parlait, c'est aussi l'inhabitable d'une certaine manière. Ce lieu, il ne pourra plus jamais l'habiter et ses souvenirs sont trop faibles, sont trop lointains pour lui permettre de continuer à l'habiter.
Il y a une page du W qui est saisissante où, après l'évocation de ses parents, il dit que l'écriture est l'affirmation de son existence et le souvenir de leur mort. Et juste avant, il parle du scandale de leur silence. Le silence des parents, on le comprend pour en quoi il est scandaleux. Et de mon silence. Et de mon silence, c'est justement cette enfance détruite. Et c'est ça, effectivement, qui l'amène à écrire. Parce qu'il y a quelque chose là qui, de lui-même qui a disparu et à la recherche duquel il est continuellement. Ça pourrait s'appeler à la recherche du temps fondateur perdu, l'œuvre de Pérec.
Et ou c'est à la recherche de l'espace fondateur.
De l'espace fondateur perdu, puisque c'est à la fois... Et cet espace, c'est pas n'importe quel espace, puisque c'est l'espace de la relation à la mère, de la tendresse. Et ça, cet espace-là, il est atrocement perdu.
Est-ce que cette quête de cet espace originel perdu, cette quête plus que cette conquête, parce qu'il sait qu'elle sera sans fin ou impossible. Est-ce que cette construction littéraire qui la sous-tend, elle a quelque chose d'artificiel et de fictif pour Georges Perec?
Oui, virgule, non. C'est bien ça qui est passionnant chez Perec. C'est qu'il nous oblige... Il y a une expression qui me vient souvent en tête avec Perec, c'est faire tenir ensemble. À faire tenir ensemble des réalités contradictoires, des lieux contradictoires, des... effectivement, l'écriture tient, mais à certains moments, elle ne tient pas. Les espaces sont là, ils durent, on peut les nommer, et en même temps, ils peuvent défaillir. Et la force de l'architecture de Perec, et c'est ce qui nous rend intelligents quand on lit Perec, c'est d'arriver à faire tenir ensemble des contradictions et des qui sont fondatrices de vie.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge. Surtout si c'est bronzé, passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, son deux pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et l'amour du...
Merci beaucoup Claude Burgelin. Je rappelle que vous avez contribué à l'édition des œuvres en Pléiade de Georges Perec et aussi à l'album Georges Perec en Pléiade chez Gallimard également, ainsi qu'au cahier de Lerne consacré à Perec. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
Pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Géraldine.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui dans ce journal de la philo?
Eh bien, commençons d'abord par une question. Quel est le point commun entre Virginia Woolf, Pierre Bérégovoy, Pétrone, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Primo Levi, Dalida et Ernest Hemingway? Tous se sont suicidés. Et ce ne sont évidemment pas les seuls. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde, soit 2192 personnes par jour. En France, la prévention du suicide est devenue une cause nationale, avec la création, en 2013, par la ministre de la Santé Marisol Touraine, de l'Observatoire national du suicide. Selon cet observatoire, en 2014, 8 885 personnes se sont données la mort, soit près de 24 suicides par jour. Malgré une baisse de 26% du taux de suicide entre 2003 et 2014, la France présente, au sein des pays européens, un des taux de suicide les plus élevés, derrière les pays de l'Est, la Finlande et la Belgique. Les statistiques sont inquiétantes, mais la prévention du suicide, telle qu'elle est mise en œuvre dans les hôpitaux psychiatriques ou par les politiques de santé publique, pose une véritable question philosophique. Si les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam condamnent fermement le fait de se donner la mort, le shintoïsme et le bouddhisme sont plus ambigus. Il n'y a en réalité qu'au Japon, et pour des raisons plus culturelles que religieuses, que le suicide a été l'objet d'un rituel communément admis sous la forme du seppuku, littéralement la coupure au ventre, que nous connaissons mieux sous le nom d'arakiri. La tradition philosophique, quant à elle, présente une diversité bien plus grande en matière de condamnation ou non du suicide, et ce, depuis l'Antiquité. Hégésias de Cyrène, né vers l'an 290 avant Jésus-Christ, considérait même que le bonheur n'était pas possible et que la mort était préférable à la vie. On le surnommait Hégésias Pisitanat, c'est-à-dire celui qui pousse à la mort. Son enseignement a entraîné tellement de suicides que le roi Ptolémée II a été obligé d'interdire ses livres et l'exiler.
Mais alors là, Anastasia, on est quasiment dans le registre de la sauvegarde de l'ordre public. Quelle est la question philosophique derrière tout ça ?
Eh bien, je pourrais vous répondre de manière radicale avec Camus, qui ouvre le mythe de Sisyphe avec la phrase suivante. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. De manière moins radicale, il faudrait dire que les problèmes sont multiples. Il y a d'abord la question de savoir si le suicide est le résultat d'une cause intérieure ou bien d'une cause extérieure. Pour Suran, héritier de Nietzsche et de Schopenhauer, la vie n'est supportable que parce qu'il est possible, par une simple décision intime, d'y mettre fin. La liberté de se suicider est un réconfort. Pour Spinoza, en revanche, qui soutient que nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure, le suicide ne peut en aucun cas être le résultat de l'expression de sa liberté. Il est plutôt le résultat d'un état de servitude, de soumission à des causes externes. Une autre question encore, et qui nous intéresse particulièrement car elle est inscrite au rang d'un des principes essentiels du droit français, c'est l'indisponibilité du corps humain qui pose des limites à la libre disposition de soi. Le suicide, comme l'euthanasie d'ailleurs, représentant l'acte extrême de disposition.
On devrait donc interdire le suicide.
Eh bien, c'est là que la philosophie doit laisser place à la thérapeutique. L'interdire, c'est évidemment impossible. L'empêcher ou le prévenir, c'est une nécessité. C'est ce qui est pratiqué quotidiennement dans nos services d'urgence et de psychiatrie, comme je vous le disais. Et c'est dans cet esprit qu'a été créé l'Observatoire national du suicide, qui affirme que le suicide constitue un choix par défaut, lorsque les autres moyens de soulager la souffrance semblent inaccessibles. Dans son dernier rapport publié le mois dernier, l'Observatoire consacre toute une partie à la prévention du suicide chez les adolescents et rappelle qu'il s'agit là d'un enjeu majeur de santé publique, qui ne se joue pas seulement dans les hôpitaux, mais qui concerne toute la société. L'Observatoire insiste sur le rôle déterminant de la manière dont les suicides sont médiatisés et des risques que cela peut engendrer. C'est ce qu'on appelle l'effet Werther, ou quand la médiatisation d'un cas de suicide est à l'origine d'une hausse des suicides dans la population. Le nom est inspiré de la vague de suicides qui s'était produite en Europe suite à la publication du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. À l'inverse, la mise en évidence de l'effet Papageno, du nom d'un personnage de la flûte enchantée de Mozart, montre qu'un traitement médiatique réfléchi et adapté du suicide peut avoir une dimension préventive. Un programme national du même nom propose des solutions aux médias pour mieux comprendre, mieux informer et mieux prévenir la contagion suicidaire. Sur les réseaux sociaux aussi, les psychiatres s'activent, comme le docteur Christophe Debien qui rappelle que le suicide est une solution définitive à des problèmes qui, eux, sont temporaires.
Merci Anastasia, on vous retrouve demain et le journal de la philo est à réécouter sur le site de France Culture. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Van Red, bien sûr, David Pargamin, Maude Markiewicz, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Isis Jourda, Olivier Bétard à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui d'Alia. Rendez-vous demain pour une envolée au-delà des étoiles. De quoi est fait cet espace? Est-il infini? Qu'en est-il des trous noirs? Ce sera avec l'astrophysicien Aurélien Barraud, professeur à l'université Grenoble-Alpes, chercheur au CNRS et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Mais d'ici demain, pour écouter cette émission sur les espèces d'espace de Georges Perec, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger et la podcaster et y trouver bien sûr toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo pour retrouver toutes nos émissions.